Je suis né le 19 août 1969, un mardi, fils de John Bennett Perry, qui ne faisait plus partie des Serendipity Singers, et de Suzanne Marie Langford, ex-Miss Canadian University Snow Queen. Il y avait un énorme orage ce soir-là, bien évidemment. Tout le monde jouait au Monopoly en attendant que je me décide à me pointer, bien évidemment. J'ai débarqué sur la planète environ un mois après le premier alunissage et un jour après la fin de Woodstock. Donc, quelque part entre la perfection cosmique des orbites célestes et toute la merde de la ferme de Max Yasger, et en interrompant quelqu'un qui achetait des hôtels rue de la Paix. Je suis arrivé en hurlant et je n'ai jamais arrêté. Pendant des semaines, je souffrais de coliques, mon estomac faisait des siennes depuis le début. Mes parents devenaient fous tellement je pleurais. Inquiet, ils m'ont emmené chez le médecin. Nous étions en 1969, une époque préhistorique comparée à celle d'aujourd'hui. Cela dit, je ne sais pas à quel point une civilisation doit être évoluée pour comprendre que donner du phénobarbital à un bébé qui n'est sur Terre que depuis un mois est, disons, une approche intéressante de la médecine pédiatrique. Mais dans les années 1960, il n'était pas rare de filer à un enfant souffrant de coliques un puissant barbiturique. De nombreux médecins de la vieille école ne juraient que par ça. Et par ça, je veux dire prescrire un puissant barbiturique à un enfant qui vient tout juste de naître et qui n'arrête pas de pleurer. Je veux être très clair sur un point. Je ne blâme pas mes parents. Je ne leur en veux pas d'avoir fait ça. Votre gamin pleure tout le temps, de toute évidence quelque chose ne va pas, le médecin vous prescrit un médicament, il n'est pas le seul médecin à prescrire ce médicament, vous donnez le médicament à votre enfant arrête de pleurer. C'était une autre époque. J'étais donc dans les bras de ma mère angoissée, à pleurer sur son épaule de jeune fille de 21 ans, tandis qu'un dinosaure en blouse blanche qui avait à peine levé le nez de son bureau en chaîne massif a dû marmonner un truc du genre « Ah, les parents de nos jours !» à travers son haleine fétide avant de rédiger une ordonnance pour un barbiturique hautement addictif. J'étais agité et en manque d'affection, on m'a donné une pilule. Putain, ça me rappelle toute ma vingtaine. Apparemment, j'ai pris du phénobarbital de mes 1 mois à mes 2 mois, une période importante dans le développement d'un bébé, surtout au niveau du sommeil. Mystère résolu. Une fois le barbiturique pris, je m'écroulais de fatigue. J'étais en pleine crise de larmes. Puis la pilule faisait son effet et j'étais complètement assommé. Ça rendait mon père hilar. Ça n'avait rien de cruel. Les bébés stone, c'est toujours drôle. Il y a des photos de moi où je suis complètement défoncé, la tête penchée comme un toxico, à l'âge canonique de 7 semaines. Ce qui, je suppose, est plutôt approprié pour un gamin né le lendemain de la fin de Woodstock. J'avais besoin d'attention. Je n'étais pas le petit bébé mignon et souriant que tout le monde avait espéré. Je vais donc avaler ça et la fermer. Non sans ironie, les barbituriques et moi avons tissé un étrange lien au fil des années. Les gens sont toujours surpris d'apprendre que je suis majoritairement sobre depuis 2001, à l'exception de 60 ou 70 petites rechutes. Lors de ces rechutes, si vous voulez réussir à redevenir sobre, et je l'ai toujours voulu, on vous prescrit des médicaments pour vous aider. Quels médicaments, demandez-vous ? Vous l'avez deviné, du phénobarbital. Les barbituriques aident à vous calmer pendant que votre corps expulse toute la merde que vous avez consommée. Pas de souci, j'ai commencé à en prendre à 1 mois, donc je me suis contenté de reprendre à l'âge adulte les choses où je les avais laissées. Quand je suis en période de sevrage, je suis ingérable et malheureux, et donc au regret de dire que je suis le pire patient du monde. La désintox, c'est l'enfer. La désintox, c'est être cloué au lit à compter les secondes, tout en sachant que vous êtes à 1000 lieues de vous sentir mieux. Quand je suis en désintox, j'ai l'impression que je vais mourir, que je suis en train de mourir. J'ai l'impression que ce sera sans fin, que mes entrailles essaient de sortir de mon corps. Je tremble et je sue. Je suis comme un bébé à qui on n'a pas donné de pilule pour arranger les choses. J'ai choisi de me défoncer pendant 4 heures en sachant que j'allais vivre un enfer pendant 7 jours ensuite. Je vous avais dit que cette partie de moi était dingue. Parfois, il faut m'enfermer pendant des mois pour que je réussisse à briser le cycle. Quand je suis en désintox, les mots « allez bien » ne sont plus qu'un lointain souvenir, quelque chose qu'on réserve aux cartes de vœux. Je supplie comme un enfant qu'on me donne un médicament pour atténuer les symptômes, n'importe lequel. Un adulte qui rend plutôt pas mal sur la couverture du magazine People et qui néanmoins supplie pour qu'on le soulage. Dans ces cas-là, je serai prêt à tout donner, toutes les voitures, toutes les maisons, tout l'argent, juste pour que ça s'arrête. Et quand la désintox est enfin finie, que vous êtes enfin soulagé, vous jurez à tout va que vous ne vous imposerez plus jamais ça. jusqu'à ce que vous vous retrouviez 3 semaines plus tard exactement au même endroit. C'est fou. Je suis fou. Et comme un bébé, j'ai longtemps refusé d'effectuer le travail psychologique qui s'imposait, parce que si une pilule peut régler la situation, franchement, c'est plus simple. Et c'est ce qu'on m'avait enseigné, de toute façon. Lorsque j'ai eu 9 mois, mes parents, qui avaient décidé qu'ils en avaient assez l'un de l'autre, m'ont installé dans mon siège auto à Williamstown, Massachusetts, et ont roulé jusqu'à la frontière canadienne. 5h30 de route. Je m'imagine parfaitement le silence de ce trajet. Je ne parlais pas, bien sûr. Et les deux anciens tourtereaux à l'avant ne devaient pas se parler non plus. Mais je suis sûr que le silence a dû être assourdissant. Ce qui était en train de se passer était énorme. Là-bas, avec le bourdonnement des chutes du Niagara en fond sonore, Warren Langford, mon grand-père maternel qui avait tout d'un militaire, nous attendait en faisant les 100 pas et en tapant du pied pour se réchauffer ou de frustration. Ou les deux. Il nous a probablement fait un signe de la main quand la voiture s'est approchée, comme si nous venions pour les vacances. Je devais être content de le voir, mais c'était compté sans mon père qui, de ce que j'ai compris, m'a sorti de mon siège auto, m'a tendu à mon grand-père, puis nous a tranquillement abandonnés, ma mère et moi. Ma mère, mon grand-père et moi avons écouté les eaux rugir des chutes jusqu'au fond des gorges du Niagara, tout en regardant mon père s'éloigner à toute vitesse, pour toujours. De toute évidence, nous n'allions finalement pas vivre tous ensemble dans une petite maison tordue. Je suppose qu'on m'a dit à l'époque que mon père allait bientôt revenir. « Ne t'inquiète pas », a probablement dit ma mère. « Il va juste travailler, Matzo. Il revient. »« Allez, mon petit pote », a dû ajouter Grandpa. « Allons voir Nanny. Elle t'a fait tes spaghettis préférés pour le dîner. » Tous les parents partent travailler. Et ils reviennent toujours. C'est juste la vie normale. Pas de quoi s'inquiéter. Pas de quoi avoir des crises de colique, des addictions, un éternel sentiment d'abandon, un malaise permanent, ni un besoin désespéré d'amour. Pas de quoi se dire qu'on ne suffit pas ou qu'on ne compte pas. Mon père a pris ses jambes à son cou pour aller Dieu sait où. Il n'est pas rentré du travail ce premier soir, ni le deuxième. J'espérais qu'il rentrerait au bout de 3 jours, puis d'une semaine, puis d'un mois. J'ai arrêté d'espérer au bout de 6 semaines environ. De toute façon, j'étais trop jeune pour comprendre où était la Californie et ce que signifiait poursuivre son rêve de devenir un acteur. C'est quoi un acteur? Et où est mon père, putain? Mon père, qui deviendrait plus tard un père formidable, venait de laisser son bébé seul avec une femme de 21 ans en sachant très bien qu'elle était trop jeune pour être mère célibataire. Elle était certes une femme merveilleuse et très aimante, mais tout bonnement trop jeune. On l'avait abandonnée, elle aussi, sur ce parking de la frontière entre les États-Unis et le Canada. Elle était tombée enceinte à 20 ans et se retrouvait seule à 21. Si moi, j'avais eu un bébé à 21 ans, j'aurais probablement essayé de le voir. Elle a fait de son mieux, et ça en dit long sur sa valeur. Mais peu importe, elle n'était juste pas prête pour ce genre de responsabilité, et moi, je n'étais pas prêt à gérer quoi que ce soit, vu que je venais de naître. Ma mère et moi avons été abandonnés ensemble, alors que quand on y pense, on ne se connaissait pas vraiment. Mon père parti, j'ai vite compris que j'allais avoir un rôle à jouer à la maison. Mon boulot, c'était d'amuser, d'amadouer, de délecter, de faire rire les autres, de calmer, de plaire, d'être le bouffon de la cour. Même quand j'ai perdu une part entière de moi. À vrai dire, surtout à ce moment-là. Le phénobarbital derrière moi, un lointain souvenir, comme le visage de mon père, j'ai plongé la tête la première dans la petite enfance, une période durant laquelle j'ai appris à prendre soin des autres. Un jour, en maternelle, un gamin pas très malin a refermé une porte sur ma main. Une fois que le sang a cessé de jaillir comme un feu d'artifice gore, quelqu'un a eu la riche idée de me bander la main et de me conduire à l'hôpital. Sur place, ils se sont aperçus que j'avais perdu la première phalange de mon majeur. On a appelé ma mère qui a foncé me rejoindre. Elle est arrivée en pleurant, ce qui est compréhensible, et m'a trouvé debout sur un brancard, un énorme bandage autour de la main. Avant qu'elle puisse ouvrir la bouche, je lui ai dit « Tu n'as pas besoin de pleurer. Moi, je n'ai pas pleuré. » J'étais déjà là, le showman, celui qui veut faire plaisir à tout le monde. Qui sait, j'ai même peut-être fait un peu mon Chandler Bing avec du comique de réaction décalée, le fameux « double take », juste pour faire mouche. À 3 ans, j'avais compris que je devais être l'homme de la maison et prendre soin de ma mère, même si je venais de perdre un bout de doigt. Et comme j'avais compris à l'âge de 30 jours que si je pleurais, on me filait un truc pour que je tombe dans les vapes, il valait mieux que je pleure pas. Ou alors je savais que je devais m'assurer que tout le monde, y compris ma mère, se sente bien et en sécurité d'abord. Ou alors, vu que j'étais un gamin, je trouvais ça juste génial d'être debout sur un brancard comme si j'étais le boss.